pensée critique.
Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique.
Un podcast à seconde vue. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de nos perceptions, c'est ça ?
Bonjour Fanny. Oui, pour commencer cet épisode, je voudrais que tu imagines. Tu es au restaurant avec des amis et c'est toi qui dois choisir le vin. Rouge ou blanc, Bordeaux, Bourgogne ou peut-être un Côte-du-Rhône ?
Voilà, j'ai la pression. Je suis censé impressionner tout le monde avec mon choix, non ?
Pas forcément les impressionner, mais juste faire le bon choix pour accompagner le repas. Et souvent, après avoir hésité, on choisit un vin en fonction de son prix. Généralement un vin un peu plus cher que la moyenne.
Oui, histoire de ne pas prendre de risques. Et tout le monde finit par te féliciter pour ton choix.
Voilà. Mais est-ce que c'était vraiment le goût du vin qui leur plaisait ? Ou bien est-ce que le prix ou l'étiquette ont influencé leur évaluation ?
Donc, ce qu'on pense être une bonne bouteille pourrait être une illusion ?
Eh oui, une illusion que tu peux expérimenter chez toi. Prenons l'exemple du vin. Tu proposes une dégustation à tes amis. Tu mets le même vin dans une bouteille prestigieuse et dans une bouteille basique. Tu proposes les deux bouteilles avec deux autres bouteilles pour masquer la supercherie. Et ensuite, tu fais goûter les quatre vins à tes amis, sans leur dire ce que tu as fait.
Et je note combien identifient qu'il y a deux fois le même vin et s'ils les notent de la même manière.
Eh oui. L'étiquette des bouteilles influenceront directement leur perception. Et tu peux faire pareil avec d'autres produits, du café, des jus de fruits, du chocolat. Tu changes les emballages, tu fais en sorte que les produits ne soient pas identifiables. Par exemple, le chocolat a souvent la marque écrite sur les carreaux. Et tu observes.
Amusant. Mais pourquoi ça marche, en fait ?
Parce que notre cerveau ne se limite pas à analyser ce que nos sens captent. Il intègre aussi ce qu'il sait déjà, ce qu'il attend ou ce qu'il anticipe. Résultat, ce qu'on perçoit est une sorte de mélange entre la réalité extérieure et nos croyances ou nos attentes.
Attends, quand tu dis « ce que captent nos sens », tu parles de la vue et des autres sens. Est-ce qu'on peut donner une définition simple d'un sens ?
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le cerveau est enfermé dans la boîte crânienne et reçoit des informations en provenance du monde extérieur ou des organes du corps, par l'intermédiaire des sens qui fonctionnent comme des capteurs.
Ah oui, donc les cinq sens, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et le toucher.
Oui, cinq sens qui ont été identifiés il y a plus de 2000 ans. Mais depuis, la science a décrit d'autres sens.
D'autres sens ?
Par exemple, la thermoception, qui nous permet de percevoir la chaleur, ou encore la proprioception, qui provient des muscles et des tendons, et qui indique notamment où sont nos membres dans l'espace. Il y a aussi le sens de l'équilibre, qui dépend de l'oreille interne, de la vue ou de la proprioception, et la nociception, qui est la perception de la douleur.
Ok, je ne savais pas qu'on avait autant de sens. Et tous ces sens envoient des informations au cerveau.
Eh oui, en permanence. Mais le cerveau ne peut pas tout traiter, alors il trie et filtre ces informations. Il se concentre sur ce qui lui semble le plus important ou sur ce qui capte notre attention à un moment donné. Ce traitement automatique, souvent non conscient, requiert la mise en œuvre de processus élaborés et rapides.
Et ces processus, pour traiter les perceptions, ils sont efficaces ?
Leur efficacité peut varier d'une personne à une autre en fonction des compétences développées par chacun au cours de sa vie. Un musicien saura détecter des variations mélodiques d'un morceau de musique. Un œnologue pourra identifier un vin et ses multiples composantes olfactives. Mais dans tous les cas, la perception a des limites. Impossible de sentir l'odeur d'une fleur trop éloignée, de toucher un objet hors de portée ou de voir ce qui est caché.
Ça semble assez évident, non ?
Et pourtant, je te propose une expérience de pensée. Imagine que tu observes un joli paysage. Au loin, tu vois la mer, plus près les collines avec des animaux, probablement des vaches ou des moutons. Sur le côté, un village où s'activent quelques habitants.
Je vois très bien la scène.
Pendant ces quelques secondes d'observation, tu remarques un rapace au-dessus du troupeau, un bateau qui pointe sa voile à l'horizon et un véhicule qui entre dans le village. Mais quand tu en parles avec tes amis, personne d'autre n'a vu le rapace et une seule personne a remarqué le bateau.
Mais regardez tous la même chose. Pourquoi ils ont raté ces détails ?
Parce que leur cerveau n'a pas traité ces informations. Même si elles étaient visibles, elles n'ont pas été jugées prioritaires. Malgré l'impression d'observer l'environnement de manière nette et complète, le cerveau et le système visuel ne font en fait que construire une représentation personnelle de la réalité, en occultant tout un ensemble d'informations. Des informations visuelles, des sons, des odeurs, des informations de température, la position du corps, etc. Le cerveau ne peut pas et ne va pas traiter l'ensemble de ces informations, mais en bon logisticien, il va se concentrer sur celles qui lui sont les plus utiles, ou encore celles qui sont émotionnellement fortes. On appelle cela la cécité attentionnelle.
Ah oui, c'est ce que tu expliquais. On reçoit trop d'informations, donc on trie. Même si nos yeux fonctionnent parfaitement, on ne voit pas tout.
Absolument. Des éléments fixes ou des changements pourtant clairement visibles dans le champ visuel peuvent ne pas être traités par le cerveau. Malgré l'impression d'observer l'environnement de manière nette et complète, le cerveau et le système visuel construisent une représentation personnelle de la réalité, en occultant tout un ensemble d'informations. C'est ça, la cécité attentionnelle.
Mais on ne choisit pas comment le cerveau filtre l'information. Il le fait donc à notre insu ?
Oui et non. La perception est un processus de construction, puissant, rapide, principalement inconscient, au sein duquel le cerveau cherche en permanence à construire des représentations mentales qui donnent du sens à ce qui est perçu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire sans aucun problème un texte mal imprimé dont la moitié des lettres était illisible ?
Oui, je peux aussi reconnaître un objet qui n'est qu'en partie visible, par exemple.
Et exactement. Le système visuel construit une réalité du monde, et cette construction est fortement guidée par l'attention qu'on porte à telle ou telle information. Quand on écoute une chanson, on peut faire attention aux paroles ou au contraire nous laisser porter par la musique parce que notre attention est focalisée sur une autre tâche. De même manière, nous ne portons pas notre attention sur la température de la pièce où nous sommes, ni sur de petits bruits dans la rue voisine si on est occupé à autre chose.
Alors, est-ce que cette construction perceptive peut être fausse ?
Oui, imparfaite ou carrément fausse. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de chercher du sens. Par exemple, on va souvent identifier une forme familière comme un visage dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre. Il s'agit du même phénomène lorsqu'on pense reconnaître une soucoupe volante dans une série de points lumineux, une voix humaine au milieu d'un bruit ou son prénom dans la discussion de vos amis à la table voisine.
J'ai du mal à croire que je pourrais me faire avoir quand même.
Eh ben, on va voir. Je te propose d'écouter attentivement le petit extrait qui suit et de me dire en quelle langue c'est chanté.
Aucune idée, une langue asiatique peut-être ?
Eh oui, c'est du coréen. Mais si je te dis qu'on peut entendre une phrase en français ?
Comment ça ?
Écoute bien, on peut entendre la phrase « Ton père est innocent pour elle et pour le bien ».
Ah oui, j'entends maintenant. « Ton père est innocent pour elle et pour le bien ». Attends, tu peux remettre ?
Pourtant, c'est bien toujours du coréen. Mais si je te suggère des paroles en français qui collent pas trop mal, ton cerveau va interpréter les sonorités à la lumière de cette connaissance qu'il a de la chanson, ou qu'il croit avoir, et entendre ce qu'il s'attend à entendre. La perception est une affaire d'interprétation.
Eh ben, c'est étonnant. Mais alors, quel est le lien entre la perception et l'esprit critique ? Pourquoi c'est important de comprendre le fonctionnement du système perceptif pour affûter son esprit critique ?
Parce que c'est la première étape. Pour être critique, on doit d'abord se demander « Est-ce que ce que j'ai perçu est fiable ? Est-ce que mes sens m'ont trompé ?»
Ça veut dire que si je prends une mauvaise décision, ce ne sera pas forcément parce que j'ai mal raisonné, mais ça peut être parce que mes perceptions, dès le départ, étaient biaisées ?
Tout à fait. Face à une situation ou une information, la représentation mentale qu'on se construit à partir de nos sens va nous permettre d'agir sur la situation, en se forgeant une opinion, en adoptant une attitude ou bien encore en prenant une décision. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul, surtout dans des situations complexes. Parce qu'une perception fausse peut entraîner des erreurs, même si le raisonnement est logiquement correct.
Ok, je vais commencer à me méfier de mes propres sens. Ça fait un peu peur.
Ça peut faire peur, mais c'est aussi une occasion d'exercer ton esprit critique. Prendre conscience des limites de nos perceptions, c'est déjà un grand pas pour mieux comprendre le monde et nos réactions.
Et éviter de tomber dans des pièges, comme croire qu'un vin est meilleur juste parce qu'il est cher.
Exactement, mais pas seulement. Si on ne prend pas le temps de questionner ses propres sens, on peut se disputer avec ses amis ou ses proches parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que chacun a vu ou entendu. On peut rater un mot important d'un texte alors qu'on est persuadé d'avoir bien lu. On peut croire entendre son nom alors qu'il n'a pas été prononcé et se fâcher avec un ami qui vous assure qu'il n'a pas parlé de vous. On peut ressentir une douleur en l'absence de stimulus douloureux objectif ou se sentir guéri en prenant des pilules de sucre. C'est l'effet placebo et son contraire, l'effet nocebo.
Donc on peut faire preuve d'esprit critique dans notre quotidien ?
Oui, bien sûr. On verra d'autres exemples dans nos prochains épisodes. Mais déjà, que ce soit dans vos choix de vin, vos discussions ou vos décisions quotidiennes, n'oubliez pas. Prenez toujours un moment pour réfléchir à ce que vos sens vous disent ou vous cachent.
Très bien dit, Pierre. Mais puisque la compréhension des perceptions n'est que la première étape, on se retrouve tous bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de notre cerveau.
Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique À Seconde Vue.